C'est 23.
Un condensé des meilleurs moments de Debout les comiques en format balado. Debout les comiques, juste le meilleur. Debout les comiques. 96.9. C'est quoi?
La roulette m'a désigné pour vous raconter mon grand stress, un grand stress.
C'est quoi?
Ce stress-là, c'est la semaine prochaine que je vais le vivre. Je vous le dis tout de suite, je vais manquer deux journées la semaine prochaine, lundi, mardi, pour des raisons personnelles. Je vais vous la dire, la raison personnelle, parce que c'est ça qui me stresse. Je savais pas quoi donner à mon fils à Noël. L'année dernière, c'est la dernière fois dans ma vie que j'ai donné un objet parce qu'il se sac des objets.
Ouais.
Là, j'ai dit, cette année, je sais pas quoi y donner comme cadeau. C'est un ado de 15 ans. Mmh. Et là, monsieur le juge ici en studio arrive et dit, Martin, ce qu'il faut que tu fasses avec ton gars, je pense, c'est faire une activité avec lui.
Ben ouais.
Puis c'est ça que je vais faire la semaine prochaine, mais dans cette activité-là, moi, ça me confronte parce qu'il y a un paquet d'affaires que j'ai jamais faites là-dedans.
Comme?
La première affaire, c'est qu'on s'en va à Toronto.
Ah,
oh,
ça, c'est le fun.
On s'en va au basketball à Toronto.
Oh, yeah.
Mon fils est en sport-études.
Oui, c'est là, un
lui,
méga fan
il
de
était
basket,
en basket, c'est un fou. On s'est croisé, Mike, cet été. On était à l'Alliance, mon gars. Ouais. On avait des billets de saison. Puis écoute, capote sur le basket.
Il est jamais allé voir les Raptors à Toronto?
Il est jamais allé voir les Raptors à Toronto. Il les a vus ici au match hors concours les deux dernières saisons, là, contre les Celtics.
Ouais.
Et en fait, c'était Oklahoma City puis une autre équipe l'automne dernier. Mais il les a vus contre les Celtics il y a deux ans. Donc, on va les voir contre les Celtics le 15.
Wow.
Moi, ce qui me stresse, c'est toute la démarche. Mmh. Moi, le matin, mettons, on part le dimanche matin, on prend le train. Moi,
oh, c'est tellement le fun, le train.
Moi, j'ai jamais pris le train.
Oh,
sauf que là. Je capote déjà. Moi, j'étais un anxieux dans la vie. Fait que moi, là, je te le dis, c'est une joke parce que aussitôt que j'ai fini de régler ce court voyage-là, les billets de basket, l'hôtel, le train, le stress a embarqué.
Ouais.
Moi, je vois ça comme une montagne pour moi de toutes ces démarches-là. Je te le dis, là, j'arrête pas d'appréhender comment que je vais arriver. Faut-tu que j'arrive avant? Pour le train?
Je sais qu'un. T'apaiser, genre.
La drogue. Non, c'est pas vrai, mais.
Non, mais dans le sens où, si mettons.
Il y a rien, Val, parce que.
Si je t'explique comment ça va se passer.
Parce que j'ai fait le même voyage que toi en passant, c'est ça que j'ai donné à ma fille à sa fête. Hein.
Pour vrai?
Ouais. On est allé voir les Raptors, j'ai trouvé des Christy de bons billets, t'es jamais allé à Toronto.
En train,
exactement. Ben moi, j'habite à Candiac, mais j'ai pris le REM jusqu'à Gare Centrale. Quand t'arrives à Gare Centrale, il y a des chiffres, tu sais où tu t'en vas.
C'est super facile.
Combien de temps, mettons, faut choisir avant le départ?
C'est comme 45 minutes, mettons? Une heure, 45 minutes, mais souvent, il y a un line-up, ils te font pas rentrer avant l'heure exacte de départ.
OK.
Ils scannent ton billet, c'est super relax, c'est très, très clair, puis t'as les petits cafés autour des tables, puis le train, c'est...
Moi, j'aime... Hey, t'as dit comment je suis nerveux, Mike, là? J'ai tout ça sur mon cellulaire, là. Je le regarde deux fois par jour.
Pas vrai?
C'est vrai?
Mon billet est encore là, OK. Mon billet de basket est encore là. C'est encore là,
non, c'est vraiment relax. Puis, tu prends un hôtel proche du...
Je suis juste à 300 mètres, mettons. J'ai pris le Delta, là, vraiment, en sortant de la gare. Je sais exactement quelle barre je tourne déjà. Tu comprends comment je suis un fou, là?
Ouais. Mais je me planifie un peu comme toi aussi, mais il n'y a pas de stress. Tu vas voir, c'est cool. Puis là,
non, il
n'y
a pas de stress, Mike.
Non, mais tu vas voir, c'est des étapes. Puis, une fois que tu vas faire le train, tu as 5h15, tu as le Wi-Fi dans le train pour checker tes affaires, voir s'il y a des petits restos autour, dépendamment de que t'arrives, puis peu importe où
j'arrive
tu rentres,
comme sur l'heure du souper, mettons le dimanche soir, fait qu'on va aller manger là, dans le cœur de Toronto, littéralement.
As-tu déjà trouvé ton restaurant?
Non.
Un stress de plus!
Mais tu comprends, mais moi, je suis un anxieux, là, vrai. Je suis médicamenté, je suis un TDAH, puis tout ça, mais puis je le sais que, mettons que j'élimine l'anxiété de ça, je vais mordre après d'autres choses 4 secondes après,
là,
tu comprends?
Ouais.
Mais c'est ça mon grand stress présentement, c'est le petit trip qu'on va aller faire à Toronto, moi puis mon grand, qui me stresse là.
Sache que Marie-Lou Pelletier, sur la messagerie texte, a t'écrit pour te dire, Martin, je travaille chez Via Rail, je travaille à bord des trains. Fait que sois là 30 minutes avant le départ, tu peux arriver un petit peu plus tôt si tu veux aller déjeuner, il y a le Deli Planet qui est dans la gare centrale, si tu veux aller déjeuner, oui. Moi, je suis souvent allée là manger une omelette après l'émission, puis ça fait la job en tabarnouche. Mais 30 minutes avant le départ, c'est bien en masse, Marie-Lou, elle a raison.
Mais merci. Ben oui.
On est tous avec toi, ça va bien passer, Martin.
Hey, non, je le sais, puis écoute, moi, j'ai l'impression que je risque de pogner à piqûre de ce genre de co-voyage-là. Ça me convient plus, moi. Moi, pour vrai, partir 2 semaines, ça m'attire pas tant, là. Je suis dans mes affaires, dans la vie, là, mais...
Si tu veux des suggestions restaurants pour Toronto, j'en ai plein.
Alors,
te booker ça d'avance.
On va régler ça hors onde avec Valérie Roberts. Je
mais là,
sais déjà ce que
vérifie si tes billets de Raptors sont là, ben, je suis pas certain. J'ai l'impression que... Je pense qu'il joue même pas le 15.
Non, il joue contre les Celtics. Tu vas dire une affaire. Puis quand j'ai dit ça, mon gars capote sa vie. Ils sont les meilleurs, les Celtics, présentement. En tout cas, ils vont très, très bien dans la NBA.
Ça fait 8 ans qu'on entend parler de son voyage à Chicago. après ce voyage-là à Toronto, là, on est parti pour un autre 8 ans.
Moi, j'ai hâte de voir qui va faire la première partie.
Oh,
des comiques, de retour après ceci.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le podcast Debout les comiques.
Chaque fois qu'on parle d'animaux, ça vous fait réagir. On aime nos chiens, nos pitous, nos minous.
Ben oui.
Puis l'histoire relatée par la presse en fin de semaine n'a aucun sens. C'est une femme qui avait été accusée d'opérer une usine à chiots dans le chic quartier Fontainebleau à Blainville. Elle s'est fait saisir 106 chiots par la SPCA. 6 mois plus tard, elle a obtenu une injonction partielle qui lui permettait de récupérer plusieurs chiens et de les ramener chez elle. Je vous passe les détails dégueulasses là, parce que la SPCA puis l'éleveuse se lancent la balle. Il y a vraiment comme une guerre entre les deux. En gros, la SPCA dit qu'il y a plusieurs des chiens qui étaient très malades en arrivant. L'éleveuse, elle a dit que non, la SPCA, c'est eux autres qui ont détérioré la santé et qui sont même responsables de la mort de quelques-uns de ces chiots-là. Et nous, ce qui nous a surtout questionné là-dedans, c'est le fait que l'éleveuse qui produisait des chiens par dizaines, ça correspond pas tantôt à l'image qu'on se fait d'une usine à chiots. On dirait que dans nos têtes, c'est dans un 3,5 insalubre, mal éclairé, ou ben non, une vieille grange en arrière avec des chiots dans des conditions terribles. Mais là, c'était pas le cas nécessairement. L'éleveuse est dans une maison de luxe, dans un quartier huppé.
Oui.
Comment on réussit à savoir si l'éleveur avec qui on fait affaire est un bon éleveur? Pour démêler ça, on en parle avec Claudia Gilbert, vétérinaire. Allô, Claudia.
Allô.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Cette histoire-là, là, ça te fait réagir pas mal.
Oui, ça me craint. Là, j'ai de la misère à rester calme.
Ah oui,
quand
hein?
J'ai eu la nouvelle, là, c'est ça, j'avais de la misère à...
Qu'est-ce qui te craint de même?
Ben, en fait, premièrement, on va remettre les faits en ordre. Là. C'est pas la SPCA qui a saisi, en fait. C'est la ville de Blainville.
De Blainville.
Ouais. C'est sous le prétexte que dans cette résidence-là, il y avait plus que 3 chiens, qui est, dans le règlement municipal, le maximum de chiens qu'on peut avoir par résidence.
Fait qu'on on a un citoyen qui est délinquant en partant.
Oui, c'est ça. Donc, c'était pour ça. Puis je pense que la ville de Blainville, à ce moment-là, quand ils ont fait la saisie, ils pensaient qu'elle avoir 20 chiens, là. C'est tout. Par contre, ils savaient à qui ils avaient affaire. Et la question que moi, je me pose, c'est comment se fait que c'est pas le MAPAC qui est intervenu? C'est
parce qu'il y a une autorité supérieure.
Il y avait eu des plaintes, justement, pour une usine à chiots, justement. Est-ce que c'est le MAPAC qui est supposé intervenir pour ça? Mais là, c'est pas ça. Fait qu'il y a des délais tellement importants puis tellement de manque de ressources du MAPAC qui est consacré à ça que finalement... Ben c'est la ville qui a été obligée d'intervenir. La SPCA là-dedans, c'est une victime.
Tous les éléments sont inacceptables dans cette histoire-là.
Exactement. Mais la SPCA, c'est juste une victime. Ouais. Elle a été mandatée par la ville parce qu'elle a un contrat avec la ville de Blainville. Elle n'avait pas le choix de prendre les chiens. Puis à partir du moment où c'est une saisie, fallait qu'ils gardent les chiens.
C'est eux qui sont le rebond là, automatique.
Ils pouvaient pas les stériliser, ils pouvaient pas les placer tant que c'est pas réglé cette histoire-là. Fait qu'ils savaient qu'il y en avait pour des mois à s'occuper des chiens.
Ouais.
C'est des bulldogs français avec plein de problèmes de santé.
Puis la sous-question. Claudia, j'ai le goût de te lancer, c'est la SPCA. Ils n'ont pas des moyens infinis non plus là, pour gérer.
Ils n'ont pas des financements du gouvernement.
Tu peux pas leur envoyer 200 chiots d'une shot sans qu'il y ait des impacts un moment donné sur la gestion de ça par rapport au flot normal, là, j'ai l'impression.
Mais cette SPCA-là, spécifiquement, elle a quand même beaucoup de moyens parce qu'ils sont quand même ils ont beaucoup de ressources.
Claudia, on a l'impression qu'une usine à chiots, souvent, c'est dégueu puis c'est mal entretenu tout ça, mais là, visiblement, c'est pas toujours le cas.
Ben, c'est plus ça. Il y en a encore de ça, mais c'est plus rare. Ce qu'on a maintenant comme usine à chiots, c'est, on appelle ça décentralisé, fait que c'est quelqu'un qui a une usine à chiots, mais ses reproducteurs sont placés chez des gens. Et là, ils les font reproduire, puis c'est
puis ils donnent une cote, mettons, fait que sa business est structurée de même, un loyer, mettons, aux gens qui le...
Exactement. Okay. Fait que donc, quand t'arrives chez ces personnes-là, mais souvent, ils t'amènent pas chez vous, il y a personne, cette dame-là amenait jamais personne dans cette maison-là, elle donnait rendez-vous pour placer les animaux dans sa clinique podiatrique, là.
Claudia, je vais vouloir t'entendre sur comment est-ce qu'on fait pour déterminer l'éleveur. Est-ce que c'est un bon éleveur? Quels problèmes peuvent avoir des chiens qui proviennent de ce genre d'élevage-là? Ouais, exactement. On va poser les questions dans quelques minutes parce que ce sont les questions qui reviennent beaucoup sur la messagerie texte.
Mais
T'es comique? De retour dans un instant.
Debout les comiques. 96.9, c'est quoi?
Le meilleur des comiques sur demande.
Debout, 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 debout.
les urgences qui sont pleines à craquer encore, les temps d'attente qui explosent encore. Quels moyens et que faire pour consulter quand même en évitant de passer à l'urgence? On en jase avec le doc Michael. Salut Michael.
Alors bon matin, bonne année, la gang.
Oui, merci. Et la santé dans ton cas.
Oui. Et ben la santé, juste qu'il faut pour vider les urgences, mais pas trop, sinon j'ai plus de job.
Ouais, c'est ça.
Non, ça va, c'est une joke. Santé, tout le monde.
On te souhaite une douce réforme.
Ah oui, oui, je pense qu'elle va me faire autant plaisir que les annonces de Bernard Drinville de ce matin.
C'est clair. Ceci dit, c'est quoi, Michael, quels seraient tes trucs et astuces pour éviter d'aller ajouter à l'enfer des urgences?
N'y allez pas, mais je vais quand même commencer par quand est-ce qu'il faut y aller. Parce qu'à un moment, je suppose que là, j'ai dit n'allez pas aux urgences. Je vous entends, les auditeurs et les auditrices là qui ont fait du eye roll, hein, le docteur qui me dit de pas aller aux urgences. Je veux dire, quand est-ce que vous pouvez aller aux urgences? Je vous autorise et je vous encourage à aller aux urgences quand vous avez des douleurs dans la poitrine. Ça, c'est sûr que c'est vrai que très souvent, je veux pas inquiéter tous les auditeurs et les auditrices qui ont des douleurs dans la poitrine parce que très souvent le diagnostic va être totalement bénin. Mais c'est sûr qu'on ne niaise pas avec ça quand on a des douleurs dans la poitrine. Il faut absolument exclure un problème cardiaque, un infarctus ou des problèmes avec les coronaires.
C'est que si j'ai mal au talon depuis 2 jours, j'irai pas m'asseoir à l'urgence pour un talon.
On
n'est pas en danger de mort.
Pour les bobos, il faut essayer, justement, c'est à ça
qu'on va. Même si je boite beaucoup, je suis pas capable de porter dessus.
Exactement. Donc, douleur à la poitrine ou difficulté respiratoire, vous allez à l'urgence. Okay. Douleur abdominale, alors là, c'est très sur le bord ce que je dis, parce que c'est sûr que les douleurs abdominales violentes, d'accord, les douleurs abdominales violentes, ça veut dire t'es roulé en boule sur le canapé, t'as tellement mal au ventre que c'est ça. Le problème, c'est que il y a aussi beaucoup d'auditeurs, d'auditrices qui ont du côlon irritable. On a souvent parlé de l'intestin irritable et qui pourraient avoir des douleurs abdominales violentes. Je vous dirais que si c'est des douleurs abdominales de côlon que vous connaissez bien et que c'est la 8e fois que ça vous arrive, c'est peut-être pas la peine d'y aller. Mais si c'est des douleurs abdominales qui sont vraiment inhabituelles, surtout si elles sont accompagnées de signes comme il y a du sang qui sort par vos fesses, ou vous avez de la fièvre, ou vous n'arrivez plus à aller aux toilettes, vous n'avez plus de gaz, là vous allez à l'urgence. Évidemment, et ça on ne le dira jamais assez, quand quelqu'un de vous-même ou un proche autour de vous a un problème qui vous paraît être un problème urgent de santé mentale, avec ça, vous niaisez pas et vous allez évidemment à l'urgence.
Ouais. Donc, ce serait quoi tes trucs, Michael,
pour éviter d'aller
à l'urgence et quand même d'avoir des soins?
Alors, comment on fait pour ne pas aller à l'urgence? Alors, ça a l'air évident comme ça, mais la première des choses, on essaye d'appeler son médecin de famille. Pour les 55% d'auditeurs de la grande région qui ont un médecin de famille, il est supposé de vous trier et de vous dire, ça a l'air urgent, viens-t'en. Si vous n'avez pas de médecin de famille, alors après, ça va être des petits trucs et astuces. Essayez de chercher si dans votre quartier, parce qu'il y en a maintenant de plus en plus, ça est apparu depuis cet été, vous avez des GMF et des cabinets médicaux qui ouvrent tard le soir et des fois la nuit et des fois le week-end. Ouais. C'est pas du tout encore établi, c'est pas du tout encore dans la loi,
dans
etc. Mais il y en a de plus en plus à Montréal, sur la rive sud, à Laval. Essayez de regarder si vous n'avez pas votre GMF qui va faire des gardes de soir, de week-end ou ouvrir tard le soir. Je le répète une 12e fois, mais si vous êtes inscrit sur une liste pour avoir un médecin, parce qu'il y a aussi les auditeurs qui m'ont entendu et qui disent oui, mais moi j'ai pas de médecin et ça fait 7 ans que je suis sur la liste. Ouais. C'est très important d'être sur la liste parce que ça vous donne accès au GAP, le guichet d'accès prioritaire. Donc quand vous appelez le 811 et que le 811 va vous dire quasiment à chaque fois aller à l'urgence, faites l'option numéro 3. L'option numéro 3 est l'option qui va vous donner accès au GAP et qui va vous trouver un médecin. Allez voir votre pharmacien. Le pharmacien, si vous ne savez pas pourquoi aller voir votre pharmacien, vous allez sur le site web de l'OPQ, l'Ordre des pharmaciens du Québec. Le pharmacien peut vous prescrire des médicaments pour des petites choses, peut vous donner accès à des consultations de pharmacie, peut vous donner des vaccins, vous prolonger vos ordonnances. Donc, très souvent, le pharmacien va régler vos problèmes. Nous, on est méchants, les médecins, les pharmaciens, on les appelle les épiciers. Mais non, c'est pas des épiciers. C'est des épiciers qu'on fait des études.
Michael, il te reste quelques trucs à nous dispenser sur comment se faire soigner. On te garde avec nous.
Le podcast Debout les comiques.
On est avec le doc Michael Bensoussan. Il reste quelques secondes pour nous envoyer votre question d'ordre médical sur le 96.9. Michael, t'étais rendu aux pharmaciens qui peuvent être une porte d'entrée
exactement.
Pour certains soins.
Alors, exactement. Alors, il y a beaucoup d'auditeurs, d'auditrices, ils vont avoir aussi des problèmes avec leurs enfants. Et c'est surtout souvent là qu'on se retrouve à l'urgence. Ouais. L'urgence de Sainte-Justine ou du Children qui sont parmi les
plus... On a peur, puis on y va.
Voilà, catastrophique. Eh bien, figurez-vous que, un, les pharmaciens sont très compétents aussi pour les problèmes bénins des enfants. Les eczémas, les érythèmes fessiers, la diarrhée, la fièvre de l'enfant. Votre pharmacien peut tout à fait vous aider avec ça. Mais il y a aussi une clinique pédiatrique qui a ouvert à Brossard, au 10-30, qui est ouvert pour libérer un peu des urgences, qui vous reçoit au tarif RAMQ. Et qui sont ultra compétents, ultra efficaces.
Je n'entends
que du bien de cette clinique pédiatrique du 10-30. Vous avez l'application Thales. Connaissez-vous l'application Thales?
Je vous avais déjà parlé.
Alors, l'application Thales se sert des IPS. Alors, première digression, vous pouvez taper aussi sur Internet, si vous n'avez pas loin de chez vous, des cliniques d'IPS, les infirmières spécialisées, qui peuvent tout à fait vous aider et vous dire si vous pouvez vous passer d'aller à l'urgence. Mais vous avez l'appli où vous allez... TELUS, l'appli.
Je te coupe parce que... Veux-tu dire TELUS?
TELUS.
Comme les cellulaires TELUS?
Non, comme les cellulaires TELUS, comme anus. Alors, l'application TELUS, absolument. C'est une application où vous allez pouvoir chatter avec une infirmière spécialisée et qui va aussi pouvoir vous aider à vous orienter, savoir si vous devez aller à l'urgence ou pas. Et enfin, si finalement vous devez aller à l'urgence, je vous rappelle aussi ce petit truc que vous avez des applications comme GoWell ou DCTR. C'est comme docteur, mais on enlève les voyelles, qui vont vous donner en live le pourcentage d'achalandage et le temps d'attente en fonction des différentes urgences.
On peut aussi faire semblant d'avoir de la difficulté respiratoire, on passe plus vite.
Ouais. Non, je pense pas.
Un petit truc caché. Là.
En passant à la clinique pédiatrique, il y en a une à Brossard, mais aussi maintenant à Saint-Eustache, c'est ce qu'on nous dit sur la messagerie.
C'est vraiment génial, hein? C'est vrai que ça va vite.
Hyper pratique.
Donnez-nous vos petits trucs.
Oui,
parce que ça dépend des régions, hein. J'ai vu aussi les cliniques d'IPS, il y en a beaucoup plus, comme à Joliette ou des choses comme ça. Mmh. Probablement là où il y a un manque de médecins qui sont complètement criants. C'était difficile de faire des recommandations qui sont applicables à tout le Québec comme tel.
Michael, on n'a plus beaucoup de temps pour les questions des auditeurs, malheureusement, mais on va quand même y aller avec une question. C'est bon matin la gang pour le doc. Est-ce que c'est vrai que du jus de citron et de l'ail, puis du gingembre, c'est bon pour les diabètes de type 2? C'est François qui nous demande ça.
C'est à peu près bon, mais par la bande. C'est-à-dire que le diabète de type 2 est le diabète qui se développe plus tard dans la vie et qui est en général lié au surpoids et à l'obésité qui traîne, donc qui n'est pas le diabète type 1 qui est insulino-dépendant. Alors, le jus de citron, l'ail, le gingembre, ça peut tout à fait faire partie, si tu veux, des diètes qui vont t'aider à perdre du poids. Et donc, perdre du poids, ça fait complètement partie du traitement du diabète de type 2.
Ben oui.
Donc, ça va améliorer ton diabète. Maintenant, est-ce que ça va remplacer les médicaments du diabète de type 2? Certainement pas. Donc, oui, ça peut pas être mauvais, mais non. Ça va aider ton diabète. Ça vient en complément, mais non, ça va pas traiter ton diabète.
Il y a une question de Michel Le sur la messagerie aussi qui demande, est-ce que les microdoses de champignons sont vraiment efficaces pour les gens dépressifs?
Mmh. Ça, c'est une vaste question qui est très intéressante. Le microdosing, que ce soit des champignons, du LSD, le microdosing, c'est très en vogue. Et quand je dis c'est très en vogue, certes, c'est à la mode, mais ça fait aussi l'objet de publications scientifiques. Okay. Moi, le microdosing, c'est quelque chose auquel je crois beaucoup parce qu'effectivement, il y a quand même pas mal de papiers maintenant qui laissent à prouver qu'on est à la phase où on est en train de l'étudier, de le donner en vrai traitement, en vraie gélule. Il y a des compagnies pharmaceutiques, des big pharmaceutiques qui ont racheté des petites pharmas pour probablement développer et commercialiser ces choses-là. Donc, il n'y a pas de recommandation vraiment comme telle, mettons comme l'Ordre des psychiatres actuellement du Québec qui va recommander des choses pareilles. Mais je dirais que si on a du mal avec sa dépression, si on est déjà traité, si on est déjà suivi par le psy, ça c'est le préalable absolu, et qu'on n'a pas ressenti, il y a des moments, je dirais, de pire déprime que d'autres où les médicaments n'aident pas. Le microdosing, c'est quelque chose que je peux tout à fait recommander d'essayer.
Je connaissais pas ça, je vais aller
lire là-dessus. Parce que c'est vraiment très intéressant et très prometteur.
Merci infiniment, Michael, qui a vraiment un air de Californien. Je sais pas pourquoi.
Oui.
Je devrais faire du surf personnellement. Là. Merci, Doc. Bonne année.
Ça me prend une grande planche.
Ouais.
C'est sûr.
Bonne année, mon ami. Bon retour parmi nous et bonne urgence, mon cher Michael Bensoussa. Le Doc ici à chaque mardi dans Debout les comiques.
Le meilleur des comiques sur demande.
On est vraiment enflammé depuis hier même. Puis là, on parlait littéralement du sujet qu'on va aborder, de l'hyperphagie. C'est vraiment un comportement alimentaire qui a été difficile à cerner. Et Isabelle Huot, donc, hier, dans un article dans le Journal de Montréal, elle nous disait donc finalement que c'était plus clair maintenant les limites de ça. Et j'ai le goût de l'entendre de elle-même. Elle est en ligne avec nous. Salut Isabelle!
Hey, bon matin.
Isabelle, merci de prendre du temps pour nous. Moi, à la lecture de ton article hier, je me suis sentie, à certains moments, dans la description que tu fais de l'hyperphagie, je me disais, je me questionnais, est-ce que je fais ça moi aussi? Tu peux-tu en une minute mettre la table? Qu'est-ce que c'est l'hyperphagie, Isabelle?
Oui. Ben, en fait, l'hyperphagie, c'est un trouble de comportement alimentaire comme l'anorexie, la boulimie. On le comprend mieux maintenant. C'est vraiment des crises de compulsion alimentaire. Donc, manger une très grande quantité d'aliments dans un très court laps de temps, souvent une période d'une heure, souvent en solo. Et après ça, ça vient avec une grande culpabilité, une grande détresse. Et puis, tu sais, pour dire, bon, est-ce que j'ai vraiment ce trouble-là ou un débordement? Ça arrive à tout le monde, là, de finir un sac de chips. Ça m'arrive aussi.
C'est ça.
Donc, ça, c'est pas vraiment de l'hyperphagie. Parfois, on est des mangeurs émotifs. Donc, on mange parce qu'on a une journée difficile ou ça arrive à tout le monde.
Ou même une bonne nouvelle, Isabelle. Moi, là, des fois, ça va arriver. Mais là, je t'entends. Puis moi, pour vrai, donc, de l'hyperphagie, ce serait, mettons, si je mangeais quatre pizzas d'un coup, mettons.
La crème glacée tout seul chez vous.
Non, ben, ça, moi, c'est pas à ce point-là, là. C'est pas à ce point-là, mais des fois, émotivement, je vais avoir l'impression que mon émotion va me guider dans mon alimentation.
Bon, ben là, ce qu'il faut voir, c'est est-ce que ça arrive systématiquement, une fois par semaine, depuis au moins 3 mois? Puis est-ce que c'est accompagné de 3 des 5 critères suivants? Donc, manger très, très rapidement. Souvent, moi, j'ai suivi pendant 30 ans en clinique privée des gens qui souffraient d'hyperphagie. Donc, ils mangeaient en cachette. Souvent, ils mangeaient dans l'auto, à l'abri du regard des autres. Manger très, très rapidement, comme vraiment gober la nourriture. Là, on n'est pas assis à table.
On déguste
rien. Et justement, manger jusqu'à temps qu'on se sente super inconfortable, on détache le pantalon, on n'est vraiment pas bien. Se sentir après ça super déprimé, coupable, l'estime de soi est vraiment affectée aussi. Donc, faut avoir au moins 3 des critères suivants pour dire, OK, j'ai ce trouble-là. Sinon, ben ça peut juste être une prise de conscience de dire, ben peut-être que je mange non pas en fonction de la faim réelle, mais en fonction de la faim émotionnelle. Donc, je suis fragile à ça. Ben, je vais travailler là-dessus en 2024.
Mais Isabelle, est-ce que donc, moi, mettons, est-ce que c'est la porte d'entrée à l'hyperphagie? Est-ce que mon comportement, si je mange parfois avec émotion, pas une fois par semaine, mais est-ce que donc, ça pourrait se détériorer comme comportement puis devenir la porte d'entrée à l'hyperphagie?
Pas nécessairement, parce que souvent l'hyperphagie, ben c'est sûr que l'anorexie, boulimie va se déclarer souvent un petit peu plus jeune. L'hyperphagie peut commencer après un deuil, une perte d'emploi, un événement qui est vraiment difficile, ça peut être un élément déclencheur. Puis en parallèle, il y a souvent des comorbidités, des troubles bipolaires, troubles de la personnalité limite, troubles de déficit d'attention. C'est très fréquent. Donc, c'est vraiment un trouble au niveau de la santé mentale. Je pense que le plus difficile, c'est d'avouer qu'on a peut-être ça, parce que souvent, c'est des gens qui vivent dans la honte. Ils n'osent même pas en parler à leur conjointe, à leur conjoint. Ils mangent dans l'auto avant d'arriver à la maison. J'ai trop de ça, manger, par exemple, des trios Big Mac, suivi de chips, chocolat, genre 2000 calories dans l'auto, puis on arrive à la maison, puis on mange une petite salade au thon. Puis là, le conjoint va dire, ben voyons, je comprends pas que tu gagnes du poids constamment, parce que souvent, ça vient qu'un excès de poids, parce qu'il n'y a pas de comportement compensatoire, là.
Fait qu'on est vraiment dans le spectre de la maladie mentale, un petit peu, dans le sens où ça peut nous mener même à la dépression que tu disais hier.
Ah oui. Il y a vraiment de la dépression en parallèle, puis il y a des troubles de santé physique aussi, parce que manger comme ça peut amener du diabète, ça peut amener des reflux, différents troubles de santé.
Isabelle, sur la messagerie texte, il y a des gens qui nous écrivent pour nous dire « je viens de mettre un mot ». Sur ce que je vis. J'écrirai pas son nom juste pour être certain.
Ça touche ça touche combien de gens, ça?
C'est ça.
Ben, en théorie, dans les statistiques, là, c'est 3,5% des femmes, 2% des hommes, mais en pratique, là, j'en ai tellement vu que j'ai tellement l'impression que c'est sous-évalué, sous-diagnostiqué, parce que ça touche beaucoup de monde. Ça touche autant l'anorexie boulimie, c'est davantage les femmes. Et là, on a beaucoup d'hommes qui souffrent aussi d'hyperphagie. Ouais. Puis c'est des gens qui ont une grande détresse psychologique. Donc, juste de le dire à quelqu'un, ça fait déjà du bien. J'ai écrit un livre aussi qui s'appelle « Cessez de manger vos émotions », qui est très utile pour justement améliorer sa relation avec les aliments. Puis j'ai envie de dire cette année, faites pas de régime. Travaillez votre relation avec les aliments, puis en travaillant la relation avec les aliments, puis en cessant de manger par faim émotionnelle, mais plus par faim physiologique, ben c'est déjà un pas dans la bonne direction. Là.
Isabelle, j'aimerais ça qu'on se reparle parce que l'hyperphagie, c'est un trouble alimentaire qu'on connaissait peu et il y a un élargissement des troubles alimentaires actuellement. On connaissait beaucoup l'anorexie, la boulimie, mais il y en a de plus en plus, et ça parle vraiment à nos auditeurs.
Mais notre relation avec la nourriture évolue, on dirait, dans les dernières années. Ça évolue rapidement.
C'est-tu parce que votre science évolue, Isabelle, ou ben non, parce que les troubles se multiplient?
Oui. Ah, ben, c'est ça. La science évolue constamment. Les diagnostics se précisent aussi. Mais il faut dire que depuis la pandémie, là, les troubles de comportement alimentaire, tu l'as dit, Valérie, ça augmente en flèche. Il y a de plus en plus d'anxiété dans la société, on le sait. Et l'anxiété est très corrélée aux troubles alimentaires.
Puis est-ce que je me trompe, Isabelle, que les garçons entrent de plus en plus dans ces modèles-là? C'est-à-dire qu'on... Ou peut-être qu'ils en parlent de plus en plus, là, mais c'est nommé, en tout cas, que les gars embarquent... Avant qu'on parlait d'anorexie, on parlait de filles, on parlait de femmes. Puis là, les gars embarquent, là.
Les gars embarquent. On a aussi la bigorexie, l'orthorexie. Voilà. On pourra revenir là-dessus, c'est mais ça. Les troubles alimentaires, il y en a de plus en plus.
Ouais. Ah, Isabelle, on t'embrasse tellement. Là. Merci d'avoir pris du temps pour nous, mais je suis d'accord
J'aimerais
avec Valérie. Il faut vraiment qu'on se reparle parce que tu touches beaucoup les gens ce matin en expliquant ça, les gens qui se reconnaissent là-dedans. Et puis tout le long que tu parlais, j'arrêtais pas de penser au film avec Brendan Fraser, The Whale.
Mais oui,
lui, c'était ça, de l'hyperphagie, là, qui mangeait en cachette, puis honteusement.
Hey, écoute, quel beau parallèle, quel film touchant, ben c'est exactement ça.
Merci Isabelle, on ira manger pour se récompenser.
Salut Isabelle, merci beaucoup. Isabelle Huot, diététicienne, qui vient de nous démêler un peu l'hyperphagie, mais faut qu'on y reparle parce que visiblement, tu l'as dit Étienne, le rapport à la bouffe est trouble, puis c'est pas une question d'être gros ou pas.
Non,
là.
Pas du tout.
On a un drôle de rapport à la... Puis moi, c'est l'heure des repas qui ça me confronte tellement.
Je tiens à vous dire que je vous lis sur la messagerie texte, puis vous êtes nombreux à demander est-ce qu'il y a des solutions, est-ce qu'on peut s'en sortir. Puis là, je ne pourrais pas répondre à tout le monde, puis Isabelle Huot non plus. Mais sachez qu'il y a des lignes d'écoute qui existent, entre autres ANEB, Anorexie et Boulimie Québec. Ils sont là de 8h le matin à 3h du matin. Rendez-vous sur Internet, ANEB, qui est anebquebec.com. Mais sinon, c'est 1-800-630-0907. Un trouble alimentaire, là, il y a des solutions à ça.
Le podcast Debout les comiques.
C'est hier que commençait le CES, le Consumer Electronics Show. C'est du côté de Las Vegas. Le CES, c'est le plus gros événement techno au monde avec, chaque année, plein de nouveautés. C'est un peu le carnaval de Rio de Mathieu Roy qui est avec nous, chroniqueur, chroniqueur web et technologique. Salut Mathieu!
Hey, de neige m'en vôtre, mes petits musclés.
Oui, mes petits musclés qui ont le bas du dos luxé. Écoute, faut qu'on commence en jasant de ce qu'on voit partout, Mathieu. Les écrans télé transparents, c'est vraiment fou, ça, cette innovation-là.
Et depuis que la télé est télé, honnêtement, au Consumer Electronics Show, il y a tout le temps un folklore autour des téléviseurs.
Oui.
À un moment donné, c'était qui allait faire la plus grosse télé. Puis je me souviens encore, à un moment donné, ils ont présenté des écrans à projection de 42 pouces. C'était gigantesque pour se faire un cinéma maison dans son sous-sol. et après avoir grossi les télés, on les a rendues plus minces. On les a faites en format rectangulaire. Après ça, ça a été le 4K, le 3D. Le 8K. Oui, exactement. On avait les enroulables l'année dernière. Et cette année, c'est Samsung et LG qui proposent des télés transparentes. Et là, ce que vous allez voir sur le téléviseur, sur l'affichage, ne sera pas transparent. C'est un peu comme si vous utilisiez de la peinture sur une vitre, mais une peinture opaque. Donc, ça, la double utilité, c'est que ça devient un élément de design fort intéressant dans une pièce. Une télé, lorsqu'elle est dans une pièce et qu'elle est éteinte, c'est un immense rectangle noir, c'est vraiment pas agréable. Ça capte une certaine partie de l'attention. Évidemment, quand c'est allumé, ben ça capte toute l'attention.
Ouais.
Donc, avec un téléviseur transparent, on peut le mettre devant une bay window,
mais
une fenêtre. On peut quand même voir à l'extérieur. Et quand c'est dans le milieu d'une pièce, ben c'est comme si vous aviez une espèce de grande fenêtre dans laquelle vous pourriez mettre du contenu lié à la météo, aux informations, mais seulement comme ça dans certaines parties du téléviseur. Et évidemment, ben ça peut devenir aussi une espèce de forme d'œuvre si vous mettez, entre guillemets, un genre de sauve-écran où on simule un aquarium. Donc, il y a quoi de vraiment intéressant, mais attendez-vous à ramasser vos canettes pour vous payer ça. Là.
Mais est-ce que ça fait comme si le fil de la télé, lui, il pendait dans le vide? tu sais, le fil quand même la branche.
Ils ont essayé d'éliminer la plupart des fils. Okay. Donc, évidemment, de plus en plus, il y a des compagnies qui font des télés, ce qu'ils appellent sans fil ou avec un simple fil qui, lui, va être le courant et puis le contenu multimédia. C'est un tout petit fil qui va aller dans une boîte, elle, un petit peu plus grosse où, justement, ça va être votre câble ou encore votre électricité qui va rentrer. Ouais.
Mathieu, évidemment, au CES, on parle de technologie en général, puis il y a de plus en plus de gadgets de technologie dans nos chars. Il y a toujours des nouveautés automobiles qui sont présentées au CES. C'est quoi cette année qui retient ton attention?
CES, c'est pour Consumer Electronics Show. Depuis 7-8 ans, ça devient le Car Electronics Show. Le CES ferait partie des 5 plus gros salons de l'auto, s'il était un salon de l'auto. Le monde de l'automobile avait du rattrapage à faire, c'est incroyable. Et là, on voit des compagnies comme avant-hier, Sony a continué de nous expliquer son concept de véhicule, la Afila. C'est Sony, avec une collaboration avec Honda, qui a une voiture électrique qui va être vraiment, évidemment, autonome. Mais aussi, là, hier, on a vu tout le système d'infodivertissement. Volkswagen, Mercedes, BMW nous ont tous annoncé qu'ils allaient utiliser l'intelligence artificielle, comme par exemple ChatGPT.
Ça, c'est partout,
tantôt,
ça.
Pour pouvoir... C'est partout. Puis, je veux dire, ça va devenir un agent de conversation qui va pouvoir réaliser des tâches dans ton véhicule. Par exemple, tu vas lui dire simplement que tu as froid. Il va peut-être monter de quelques degrés la température de la personne qui a... manifester son frisson.
Incroyable.
C'est-à-dire que si moi je dis j'ai froid et je suis dans le banc passager, il va peut-être simplement allumer le siège chauffant côté passager. Donc il y a une détection aussi d'où vient le son. Mm-hmm. Ça, c'est assez intéressant.
Wow.
Et BMW élimine le manuel d'instruction. Ça sera l'intelligence artificielle qui pourra justement vous donner des renseignements sur, par exemple, sur votre véhicule, sur son état. Et attendez-vous d'ici les prochaines années. Les prochaines semaines, les prochains mois, l'intelligence artificielle, s'améliore de manière fulgurante.
C'est fou, hein?
Éventuellement, l'intelligence artificielle va être capable de faire le design de certains éléments du véhicule, comme par exemple les miroirs plus aérodynamiques ou encore la forme générale d'une voiture. Puis tout ce qui est, conduite autonome, assistance avancée à la conduite. Tu sais, la voiture est vraiment techno. Honda a présenté des concepts de véhicules. Si vous tapez
la saloon, là, c'est super. Bon, Marouette, là.
Exact, la Saloon. Moi, ça a été mon coup de cœur. Honnêtement, j'ai trouvé ça quand même assez intéressant. Super mince. Si vous tapez ce matin Supernal, S-U-P-E-R-N-A-L, ben c'est littéralement un drone qui transporte des personnes. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mais le truc, c'est que quand on en a ri, il y a à peu près 7 ans, 6 mois plus tard, il faisait des tests dans le désert du Nevada. Et il y a Squad Mobility qui a fait un espèce de mini-véhicule urbain qui est à peu près comme un kart de golf. Mais ça fonctionne à l'énergie solaire. Pour vrai, le monde du déplacement... En fait, c'est plus le monde de l'automobile. Il y a des constructeurs qui ont dit nous étions des constructeurs automobiles. On est maintenant des compagnies de mobilité. On déplace des gens.
Ah, puis écoute, tout le monde s'en mêle. Apple, Google et autres. Hey, Mathieu, on fait un deal. On n'a pas le temps de tous parler ce qu'il y a sur le menu. Il y a d'autres gadgets qui ont tenu ton attention. D'autres même qui vont toucher le domaine de la santé.
Écoute, ça sera pas suffisant parce qu'il reste à peu près 17 847 nouveaux produits.
Mais on commence par vendredi, puis on check ça après.
Exactement. Salut Mathieu, merci.
Salut, bye-bye.
Bye-bye, Mathieu Roy, chroniqueur technologique ici dans Debout les comiques.
Le podcast Debout les comiques.
C'est toujours la même affaire au mois de janvier. Les cartes de crédit sont pleines. Il y a des pubs partout pour la conciliation de dettes. Et ce matin, on en parle avec le courtier hypothécaire et star des réseaux sociaux, PC Jolicoeur, qui est avec nous.
Bon matin.
Merci d'être là.
Alors, mettons quelqu'un qui nous écoute PC puis qui se dit, bon, moi, j'ai des dettes, je sors du temps des fêtes et ma carte est pleine. Par quoi est-ce qu'on commence?
Tout dépendamment, c'est quel type de prêt que tu vas avoir. Tu sais, si tu as des cartes de crédit, des marges, etc. C'est sûr, je vais venir conseiller de, si tu es capable de les payer sans faire nécessairement une consolidation, de juste vraiment venir les réduire, je commencerai principalement avec les cartes de crédit qui ont les plus hauts taux d'intérêt. Parce que c'est ce qui fait le plus mal. Tu sais, tu vas avoir des cartes, dépendamment du 20, 10%, même que ça va être parfois plus bas, ou même les marges de crédit, ce qui est peut-être plus avantageux, peut-être une solution temporaire, c'est de mettre les cartes peut-être sur des marges personnelles. Fait que peut-être au lieu d'être à 20, tu vas peut-être être à 8, 9, 10%. C'est des marges hypothécaires aussi. C'est sûr qu'en bout de ligne, l'objectif, c'est de les réduire le plus possible, mais Je dirais qu'en ordre de chronologie, commencer par les cartes de crédit qui sont les plus hautes, ouais. Après ça, les prêts, les marges de crédit personnel, puis après les prêts. Parce que les prêts, c'est, vu que c'est des, à tempérament, c'est des paiements qui sont fixes. Fait que même si tu mets, on va dire, 5 000 dessus, ben, si c'est 500 par mois, c'est quand même 500
par mois. Ça reste 500. Ça change pas ton cash flow, autrement dit, si t'agis là-dessus, là.
T'as parlé de la consolidation, là, le principe d'aller voir quelqu'un, de faire un prêt pour englober toutes tes dettes. Ouais. Mais mettons, il y a des cartes de crédit qui te proposent de prendre ton solde d'une autre carte, puis de le transférer. Puis là, sur cette nouvelle carte-là, il y a plein de promotions puis d'affaires de même. Qu'est-ce que tu penses de ça?
Ça, c'est juste qu'il faut qu'on fasse attention parce que, tu sais, faut juste se dire qu'il n'y a rien qui est gratuit. Fait que, tu sais, après ça, ils vont dire, OK, ben pendant 6 mois, tu as 0%, mais c'est important de comprendre, OK, mais qu'est-ce qui se passe après? Parce que tu peux te retrouver dans la même situation dans comme 6 mois. Fait que c'est
peut-être vraiment pire, même si tu fais pas attention, là.
Exact. Parce que le problème des genres de consolidation de dettes, c'est que le monde, des fois, oublie. Fait que, mettons, ils vont prendre plein de dettes qu'ils ont mis puis ils vont le regrouper dans un seul prêt. Qui est pas nécessairement négatif, mais c'est juste faut vraiment que tu fasses attention, que tu aies une discipline après, parce que c'est facile de dire, OK, bon, ben là, j'ai un paiement, mettons, de 500 par mois sur 5 ans, c'est réglé, mais là, whoop, là tu vas avoir des nouvelles offres de carte de crédit, des nouvelles marges de crédit, puis tu peux retomber dans le même pattern.
Je comprends.
C'est quoi la pire erreur qu'on fait puis qui nous pousse à se mettre dans une situation qui est problématique?
Qu'est-ce qui nous amène là, justement?
Je pense que le gros, ben comme là, on sort du temps des fêtes, fait qu'on va se le dire peut-être, de se créer des besoins qu'on n'a pas nécessairement besoin, de vouloir peut-être impressionner. Même, c'est niaiseux, mais tu sais, juste parce que même moi, mais je l'ai vécu, mais durant le temps des fêtes, j'étais comme, honnêtement, hey, là, tu sais, peut-être que le cadeau que j'ai fait qui est pas assez gros, peut-être que je devrais acheter autre chose, etc. Ouais. Puis tu sais, en bout de ligne, moi, je suis pas quelqu'un qui est super cadeau dans la vie. Je suis plus, j'aime les parties pour avoir du fun puis tout, mais j'ai toujours peur de, hey, est-ce que c'est assez? Est-ce qu'elle va penser que je suis cheap ou etc.
Ouais, exact, ouais.
Fait que je pense que je dirais que c'est ça le plus gros.
Le fond du jugement. L'effet fond du Simon. Se crée
un besoin. Non, mais c'est pas le voisin gonflable, mais c'est un équivalent.
C'est, ouais, c'est très similaire.
On se met une pression, en fait, qu'on devrait pas, parce que ça nous mène à le trouble ultimement. Puis on dirait que on l'accepte, ce trouble-là, mais après ça, tu fais comme, mon Dieu, un mois et demi, deux mois après, ouais, t'es vraiment pogné avec
ça. On pense pas à plus tard. Ouais, on est juste comme,
ouais, on est dans l'impulsion du moment. Demander un prêt personnel pour clairer nos dettes, avoir un seul paiement à rembourser. Est-ce que c'est une bonne idée, ça, PC?
Exact. Ça va être, encore une fois, du cas par cas, parce que c'est ça qui est considéré une consolidation de dette. Parce que d'un fois, le monde mélange, mettons, ils disent, ah non, ma consolidation de dette, c'est pas bon pour mon crédit, etc. Ce qui est pas vrai, c'est parce qu'on vient rapatrier des dettes, mais encore là, c'est, faut que tu t'assures que, de comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça. Parce que, mettons, tu vas voir ton conseiller bancaire, pour dire, hey, regarde, mais on va faire ça comme ça, mais tu comprends pas pourquoi, tu vas, ah, OK, c'est beau, puis tu vas avoir l'impression que tu repars à neuf. Ah, non, mais regarde, mais c'était pas si plein. Mais c'est que la deuxième fois, peut-être que tu vas vouloir faire ça, mais là, tes ratios permettront peut-être plus de...
Tu seras plus éligible à le faire.
Exactement. Parce qu'on a trop d'endettement.
Les ratios, on parle encore d'endettement par rapport à ce que je fais comme salaire.
Oui, exact. C'est sûr que pour du crédit personnel, c'est vraiment pas la même chose que pour du crédit hypothécaire. Fait que, okay, c'est juste, mettons, est-ce que tu vas être capable de venir mensuellement, mettons, payer tes obligations? Parce qu'encore une fois, sur des cartes de crédit, c'est dur de venir se dire, OK, mais ça va être quoi mon montant d'intérêt à payer par mois?
Je comprends.
Mais quand tu vois le bill rentrer, tu es comme, oh, OK, je paye 800$ juste d'intérêt, fait que ma carte descend même pas. Mais là, tu restes pris dans un.
Mais
tu sais, toi, tu rencontres beaucoup de monde.
Ouais.
Est-ce que globalement, les gens vivent au-dessus de leurs moyens?
Ben globalement, on a beaucoup de clients, mettons, qui n'ont pas nécessairement de dettes, okay, mais ils n'ont pas nécessairement d'épargne non plus. Fait que, okay, mettons, les habitudes d'économie sont peut-être pas nécessairement là. Puis il y a l'autre extrême aussi que, oui, en effet, il y en a quand même. Je pense que c'est peut-être parce qu'on est rendu habitué, mon groupe, là, mais
ouais,
on envoie, disons, que, ah bon, ben il y a des dettes, OK, mais on va venir les rapper ensemble ou c'est pas si pire. Mais mettons, il y a beaucoup de clients que je fais juste moi avoir ce genre de dettes-là, je dormirais mal la nuit. Là,
ah ouais,
ouais,
ah,
ouais,
ça va
ouais,
être
ah, ouais, ouais, Colin, on te garde avec nous. PC Jolicoeur qui est avec nous. On va aller avec les questions des auditeurs dans un instant, entre autres Fred Paradis, avec une question pour toi.
Le podcast Debout les comiques.
Ouais. Vous êtes intéressé à ce que PC Jolicoeur, notre invité, jase, ça réagit beaucoup sur la messagerie texte. On a des questions de nos auditeurs, mon cher PC.
Yes.
Je vais commencer avec Fred. Salut, moi et ma conjointe, on a fait une proposition au consommateur. Est-ce qu'il va être possible pour nous d'acheter une maison? Mmh. Ce qu'on comprend, donc, dans leur historique économique, ils ont déjà fait une proposition. Est-ce qu'ils vont pouvoir se requalifier?
Ils vont pouvoir acheter. Le gros désavantage de la proposition au consommateur, c'est que t'es pas libéré tant que t'as pas fini de la payer.
Fait
que,
c'est quoi une proposition
c'est
consommateur?
C'est quand, mettons, justement, que t'es plus capable de venir payer tes dettes, mais puis tu peux pas faire une consolidation de dette, justement, parce que peut-être que ta cote de crédit est peut-être déjà trop basse pour que tu aies accès à un prêt, etc. Fait que tu vas aller voir un syndic qui vont t'offrir de faire une proposition. Fait que de tout rassembler tes dettes ensemble puis de payer un pourcentage. Mettons, on va dire, ils vont s'entendre avec, mettons, les créanciers et dire, regardez, mais il est pas capable de payer. Fait qu'il va payer, mettons, 20% de tout ce qu'il doit.
Qu'on disait avant 20 cents dans la pièce, là.
C'est
mettons,
ça,
là.
Exactement. Ah, okay, exactement. Exactement. Fait qu'un coup que tu vas avoir fait ça, mais la différence, c'est qu'avec une faillite, t'es libéré après 7 mois. Mais une proposition, t'es libéré quand t'as fini de la payer. Fait que, mettons, au bout de, exemple, un entente standard, c'est 5 ans. Fait que, mettons, tu prends un entente standard, mettons, à 500$ par mois pendant 5 ans.
Okay.
Quand t'es libéré, mais là, tu peux, techniquement, tu peux réacheter 2 ans après. À être libéré si tu as 2 lignes de crédit refait. 2 lignes de crédit peuvent être carte de crédit, marge de crédit, prêt personnel, prêt auto.
Et que t'as pas failli à aucun paiement non plus pendant ces 5 ans-là. Donc, tu aurais 2 ans de probation de plus à faire si tu remplis tout ça.
Exact.
Vaste, le chemin est étroit quand même.
Exact. Tu sais, c'est faut que tu sois très discipliné. Tu peux pas avoir vraiment de retard entre les deux. Sinon, il va falloir qu'on aille avec un prêteur alternatif.
Hey, il y a quelqu'un qui ne nomme pas, mais qui dit bonjour, je suis inspectrice en bâtiment, un métier moins commun pour une femme. Je travaille fort dans ma région et je suis de plus en plus connue. Les courtiers hypothécaires font partie de nos référents. Est-ce que toi, PC, tu recommandes à tes clients de faire l'inspection de leur achat?
100% parce que c'est sûr que depuis le COVID, on voit beaucoup de propriétés qui sont vendues sans garantie légale pour être sûr que l'offre soit retenue, etc. Fait que tu sais, c'est correct, parce que c'est une garantie de moins, mais la seule chose, justement, il faut juste que tu t'assures que tu n'auras pas nécessairement de surprise par la suite.
Ouais.
Fait que c'est la seule façon, je trouve, l'inspection, c'est la seule façon d'avoir une garantie supplémentaire pour t'assurer que ce que tu achètes. Parce que, tu sais, moi, mettons, je suis pas manuel pantoute, mais quand tu m'en vas voir une maison, peut-être qu'elle est bien belle, mais il y a peut-être bien des défauts.
Tu verrais pas, toi, autrement dit, le défaut, parce que c'est pas ton domaine du tout. Là.
Exactement. Ben,
ouais. Admettons que moi, j'aurais acheté, que j'aurais pas fait faire d'inspection, puis que je reviens vers toi, puis je dis, hey man, ça marchait vraiment pas, tu peux-tu annuler mon prêt hypothécaire? Ça n'a pas rapport.
Un coup que c'est notarié, il n'y a vraiment rien à faire. T'sais, banque, c'est octroyé. Quand, mettons, que tu es entre les deux, il y a des démarches que tu peux faire, mais même exemple qu'on a fourni, on va dire, une lettre d'approbation finale.
Une promesse de vente ou une promesse d'achat, mettons.
Oui, exactement. Ben, ça va être la clause d'inspection qui va falloir que tu t'assures que tu as mis les bons délais pour faire en sorte. Je pense que ça dit, mettons, la clause que si tu n'es pas satisfait, tu peux venir annuler. Fait que tu es quand même protégé. Mais un coup que c'est notarié, c'est extrêmement compliqué. Surtout si tu n'as pas de garantie légale, honnêtement, je pourrais pas avancer là-dessus, mais je pense pas que le grand recours.
Hey, tu peux changer de nom puis te refaire faire la face.
Ouais,
mais t'arrêtes le window.
Ouais, ça, c'est une bonne solution.
Très bonne idée. Tu vois, il est toujours là. Ouais, si jamais t'as des problèmes, puis tu peux appeler Étienne.
Des solutions créatives.
Je connais pas le plan B, mais je connais le plan C.
Il y a Doriane qui a une question.
Doriane de Saint-Polycarpe qui pose la question: comment est-ce qu'on s'y prend pour acheter une maison si on a fait faillite? Et tu vois, c'est une des questions qui revient le plus sur la messagerie texte. Comment on bâtit un crédit? Comment est-ce
qu'un impact... Ça ressemble à ce que Fred demandait, là,
tu sais. Oui. Comment est-ce qu'une faillite a un impact? C'est quoi les meilleurs moyens pour se préparer?
Oui, parce que souvent, le monde y pense que, parce que quand tu fais faillite, ça va paraître sur ton bureau de crédit, sur Equifax pendant 6 ans, un coup que tu as été libéré, puis sur TransUnion, ça va paraître pendant 7 ans. Fait que les gens, souvent, ils pensent qu'ils ne pourront plus jamais acheter une maison de leur vie.
Oui, c'est ça.
Mais techniquement, 2 ans après que tu sois libéré, un peu le même processus que la proposition, mais une faillite, tu es libéré généralement 7 mois après ta faillite, si c'est une première faillite.
Ouais.
Ou sinon, je pense que ça prend. C'est vraiment long pour une deuxième faillite. Fait que le
7 mois seulement, je pensais que c'était plus long.
Non, non, c'est vraiment rapide quand même pour une faillite. Puis après ça, c'est le même principe du sens que ça te prend 2 ans de libération pour venir potentiellement comme acheter à nouveau. Puis une faillite, ce qui est important de savoir aussi, c'est que c'est con à dire, là, puis c'est peut-être contre-intuitif, mais plus qu'elle est grosse, puis mieux c'est. Pourquoi? Parce que si tu fais une faillite pour 20 000, c'est OK, mais t'es pas capable de gérer 20 000 de crédit versus, exemple, que tu as une compagnie, que tu as eu un divorce, etc., que tu as eu une faillite de 250 000, c'est comme OK, on sait que c'est un événement qui était isolé. Fait que tu sais, la meilleure chose que je pourrais dire pour reconstruire le crédit, c'est 2 à 3 lignes de crédit. Mettons,
comment je fais, mettons, concrètement? Exact. Mettons, là, je pars, je suis scratch, je me relève d'une faillite, j'ai rien, puis j'ai pas des gros revenus, mettons. Là, demain matin, je me prends-tu une carte de crédit à 500 de marge, mettons? Comment je fais ça?
Exact. Ça te prend 2 lignes de crédit. Fait que minimum, une carte de crédit, mais d'un fois, le monde pense qu'une carte de crédit de 500, c'est bon, ça te prend une limite de 2000. Mais
okay, si faut que ce soit à 2000 minimum pour que ce soit...
Parce qu'il y a beaucoup de banques à cette heure que si t'es en bas de 2000, ils le considèrent pas parce qu'ils sont comme, c'est dur à venir gager, est-ce qu'il est capable de gérer son risque? Exact. Mais fait souvent, mettons, une marge de crédit personnel puis une carte de crédit va être vraiment bon avec des bonnes... Quitte à ce qu'il faut que tu mettes un montant en garantie parce qu'ils veulent pas, mettons, te le donner, tu donnes 1 000 pour avoir 1 500 ou 2 000.
Acheter une auto, mettons, ça pourrait-tu faire partie de ça? Un geste financier comme ça, un petit prêt pour X ou Y?
La seule chose qu'il faut faire attention avec les paiements d'auto, c'est que ça va vite, qu'ils sont élevés. Fait que ça vient vraiment impacter ta capacité d'emprunt.
Ben oui, c'est ça.
Fait que tu as un petit prêt personnel ou 2 cartes de crédit, 2 cartes, une marge, 3 lignes de crédit, idéalement minimum 2. Jamais de retard depuis la faillite.
Toujours très intéressant. PC Jolicoeur ici dans Debout les comiques. Vous pouvez le voir partout là, sur le web, entre autres son compte Instagram. Très fertile en vidéo.
Il est très fort.
Il est beau bonhomme. Il est allumé. Il est passionné. Il y a tout ce gars-là.
Le podcast Debout les comiques.
C'est 23.